A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. L'une des grandes difficultés lorsqu'on essaye de comprendre un tant soit peu notre époque et ses enjeux, c'est de parvenir à cerner avec précision l'importance et surtout le poids réel du numérique. C'est devenu un lieu commun que de constater qu'il est partout, qu'une bonne partie de nos vies, tant privées que professionnelles, passe par lui, avec les conséquences qu'on connaît sur nos sociétés, de nos maisons à nos entreprises, en passant par nos services et nos espaces publics. Tout ça, on le sait, on l'a mille fois lu et entendu, et pourtant, dans cet univers qui nous paraît aussi familier qu'imperceptible, il reste de vastes zones d'ombre. Des recoins qui, pour peu qu'on tente d'y jeter un œil, font un peu froid dans le dos, et même de véritables champs de bataille. C'est tout, sauf une métaphore, et ce sera précisément le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion, et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers.
Cet épisode, il est né de la lecture d'un livre, « Les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes », écrit par les journalistes Étienne Huvert et Boris Razon, et dont le titre donne une idée assez précise du projet. En partant de la très médiatique affaire du piratage du Parti démocrate américain, le DNC, en 2016, en pleine campagne électorale, avec les conséquences désastreuses qu'il a eues pour sa candidate Hillary Clinton, les deux auteurs se sont interrogés. Qui sont les fameux hackers russes auxquels on a attribué ce piratage ? Travaillent-ils pour le Kremlin, comme ça a souvent été affirmé, ou sont-ils de simples supporters de Poutine agissant en franc-tireur. Avec ces questions en tête, ils ont tenté de remonter leurs pistes et avant de voir ce qu'ils ont trouvé en chemin, j'ai eu envie de leur demander, puisqu'ils sont nos invités dans cet épisode, comment s'était construite la figure de l'épouvantail moderne qu'est le hacker russe. Et c'est Boris Razon qui répond en premier.
C'est difficile de savoir exactement comment elle s'est construite. Ce qui est sûr, c'est que d'un coup, vraisemblablement avec le hack du DNC aux États-Unis pendant l'élection présidentielle américaine, et tout ce qui s'en est suivi, la manipulation, l'ingérence dans l'élection, le hacker russe est apparu au grand jour.
Ouais.
Et depuis, il n'a plus disparu, en fait. Il est là, tout le temps, partout. On a parlé de lui à l'occasion de l'élection de Macron en 2017. Il y a eu des attaques en Allemagne. On a parlé d'eux à l'occasion des élections de midterm aux États-Unis, avec une énorme inquiétude. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et au fond, c'est installé comme ça l'idée communément répandue que les hackers russes étaient une menace qui planait pour toutes les démocraties occidentales, qui était un mélange de manipulation et de capacité technique. Et en fait, je crois que ce qu'on a perçu, mais je laisserai Étienne rebondir, c'est justement courant 2017, on s'est dit, mais au fond, c'est qui ces gens-là ? Qui sont les visages derrière cette espèce de fantôme épouvantail, menace planante ? Et parce que c'est très facile aussi pour tout le monde de dire, ce sont les hackers russes.
Oui. Ça sert de paravent à tout ce qu'on veut, en fait. Étienne, c'est le sentiment que vous avez aussi ?
Oui, surtout quand on a commencé cette enquête avec Boris, avec Marina Ladoux, avec tous nos amis du collectif Slog News qui ont travaillé avec nous. On a vraiment été étonnés au début de voir qu'on ne trouvait pas de nom, qu'on n'associait pas de nom précis, d'identité à ces hackers russes qui étaient nommés, qui devenaient un épouvantail, dont on parlait de plus en plus un peu partout. Et si vous regardez bien, c'est extrêmement rare de ne pas avoir de nom derrière un groupe. Si vous regardez des guérillas, si vous regardez des groupes armés, vous finissez toujours par trouver un nom. Là, on n'avait rien du tout. Et dès le début, on s'est dit qu'on avait un terrain d'enquête extrêmement intéressant et que forcément, même si on ne trouvait pas les noms de certains groupes ou les personnes qui se cachent derrière, on allait découvrir des choses tellement intéressantes en les cherchant que ça valait le coup vraiment de les chercher. C'est ce qu'on a fait et à la fin, on n'a pas été déçus.
C'est une des difficultés principales, et c'est d'ailleurs, on va dire, parce que dans ce livre, on suit également votre cheminement, votre réflexion dans la fabrication de cette enquête. L'une des difficultés, donc, c'est de trouver un point d'entrée, un point d'accroche pour démarrer concrètement l'enquête. Quelle a été la porte d'entrée pour vous, du coup ?
Parce qu'on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y avait des endroits où ces hackers russes, ou je dirais même plutôt russophones, se retrouvent.
Oui, ça, c'est une distinction qui est importante.
Voilà, et ça se passe sur des forums, et on s'est mis un point d'honneur à essayer d'infiltrer ces forums. Et je vous dis qu'il y a eu des moments de désespoir. Il y a des soirs où vous rentrez, vous dites, on n'y arrivera vraiment jamais.
Oui.
Parce que pour rentrer sur ces forums, il faut cumuler beaucoup de compétences. Il faut trouver des gens qui sont compétents linguistiquement, qui parlent le russe, qui peuvent échanger avec les gens, mais en plus un russe qui soit suffisamment bon techniquement pour être capable d'échanger avec ces personnes-là.
Oui.
Et trouver la personne capable de le faire, qui a les compétences techniques et qui ensuite est en mesure de naviguer sur ces forums, c'est extrêmement compliqué. Et c'est déjà un écueil qui nous a tenus pendant des mois. Voilà, on a trouvé des russophones et ça marchait pas parce qu'ils n'arrivaient pas à y aller. Ensuite, on avait des hackers avec nous, mais eux étaient limités dans leur capacité à entrer sur ces forums-là. Et puis, on a fini par trouver un certain Igor. On l'appelle Igor parce qu'il préfère masquer son identité.
Oui.
Lui-même a des origines russes et lui nous a permis d'accéder, je dirais, on n'a même pas été très loin sur ces forums, okay. au niveau bac à sable.
Oui, c'est ce que vous dites, niveau bac à sable.
On est au niveau bac à sable parce que après, si on veut monter des échelons, si on veut aller voir ce qui se passe plus haut, et il faut respecter un certain nombre de règles, il faut échanger avec les gens, il faut monnayer des informations dans un sens ou dans l'autre. Mmh. On voulait pas rentrer dans cette logique pour ce documentaire-là. Et du coup, on est resté à un niveau relativement bas d'infiltration, on dira, mais qui est déjà très évocateur. En fait.
Boris ?
Non, j'ajouterais une dimension qui a été une dimension importante de l'enquête, qui est que parfois on trouvait des gens, mais ils avaient peur.
Oui.
Parce que aujourd'hui est associée à la Russie et aux hackers cette idée que c'est dangereux. Et donc il y a plein de gens qui ont reculé parce que c'était trop dangereux.
Ce matin, pas moins de 29 000 serveurs informatiques sont infectés en France. Sont touchés notamment la biscuiterie Lu, la SNCF, l'assureur Maïf, l'entreprise de construction Saint-Gobain. 29 000 serveurs, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau à l'échelle de la planète où là, le virus impacte ce matin 2 millions de serveurs.
Il y a un élément central dans ce livre, enfin, il y a un élément décisif dans ce livre, c'est une date, c'est le 27 juin 2017. Il se passe quoi le 27 juin 2017, Étienne ?
Il y a une attaque incroyable qui, ici en Occident, passe pas totalement inaperçue, mais presque.
Oui.
Presque inaperçue. Ça s'appelle NotPetya et ça touche un pays dont on parle pas beaucoup en Europe ou en Occident, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, donc, c'est ce pays qui est en marge de la Russie, qui est en guerre aujourd'hui. Il y a une révolution en 2014 où avant il y avait un pouvoir qui était plutôt pro-russe, puis il y a un pouvoir aujourd'hui plutôt pro-ukrainien qui s'est mis en place dans ce pays-là. Et depuis, ben, la Russie est en conflit assez ouvert avec l'Ukraine. Et en 2017, donc ce 27 juin, il y a eu une attaque qui s'appelle NotPetya et qui a décimé des dizaines d'entreprises en Ukraine avec un virus qui a attaqué, qui a vraiment bloqué les ordinateurs. C'est-à-dire que les gens arrivaient, voyaient sur leur ordinateur écran noir, payer cette rançon. Alors, on a cru au départ, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas tant parlé, que c'était un ransomware, que c'était un outil qui était là pour demander une rançon et pour vous extorquer de l'argent. Et puis, en fait, très rapidement, au bout de quelques jours, quand les spécialistes ont étudié ce ransomware, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun moyen ou quasiment aucun moyen de payer. Et du coup, on s'est dit, mais si on ne peut pas payer, ça veut dire que c'est une arme qui est là pour détruire et qui cible l'Ukraine. Et tout de suite, évidemment, eh bien, ce sont les Russes qui ont été accusés d'être derrière.
Et il y a un élément très important, c'est que cette attaque, elle sert surtout à déstabiliser économiquement et politiquement l'Ukraine.
Absolument. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette attaque, elle pouvait être interprétée de différentes manières. Oui. Elle a touché 10 à 15% des ordinateurs de l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est énorme. Elle a quasiment paralysé le pays, dont un certain nombre d'administrations qui ont beaucoup souffert. Et au moment où elle frappe l'Ukraine, il y a des négociations qui sont en cours pour des investissements américains, notamment. Et il y a une angoisse évidente de tout investisseur qui voit l'état de ce pays et la dévastation que provoque notre média. Et du coup, on se dit, le message en fait, simple qui est passé, c'est vous vous approchez de l'Ukraine, vous faites du commerce avec l'Ukraine, vous prenez vos risques. Mais de fait, c'est assez dangereux. Et le fait est que, en plus, l'attaque n'a pas touché que l'Ukraine. Elle était si puissante, si bien conçue, c'est probablement plusieurs années de travail de réussir à faire ça, qu'elle a touché un certain nombre de grandes entreprises mondiales qui commerçaient ou qui avaient des filiales ou qui avaient des représentations en Ukraine.
Notamment Saint-Gobain en France.
C'est le cas de Saint-Gobain en France et c'est le cas d'une très grande entreprise danoise qui s'appelle Maersk. Enfin, les deux entreprises, en gros, ont perdu chacune entre 200 et 300 millions d'euros. Mais ce n'est pas tant ça qui est intéressant que, comme le fait en général le numérique, de dépasser les frontières et de faire voler en éclats l'économie mondiale, parce qu'on considère que c'est 10 milliards d'euros de pertes pour l'économie mondiale.
Et on en parle très peu, c'est très souterrain, c'est ça aussi qui est passionnant.
Oui. Et ensuite, c'est qu'il y a des histoires humaines derrière. Étienne le racontera certainement mieux que moi. Que ce soit à Maersk ou à Saint-Gobain, vous avez des gens qui sont mais dans un état à la fois de sidération et de panique et qui ont, là encore, une nouvelle fois, peur parce qu'il peut se produire des choses qu'ils ne peuvent plus contrôler.
Oui. Moi, j'étais en contact, notamment sur Saint-Gobain, avec des employés, des hauts fourneaux à Pont-à-Mousson. Il y a des hauts fourneaux, donc pour vous faire court, vous avez du métal, de la fonte en fusion, comme ça, dans ces hauts fourneaux. Et ils ont vu dans la salle de commandement les écrans devenir noirs. C'est ce que me racontent les employés. Et ils ont eu vraiment très peur parce qu'ils ne savaient plus comment gérer, comment faire en sorte de faire sortir le métal fumant, le métal qui a des milliers de degrés. Et il a fallu revenir à un système artisanal, il a fallu revenir à la main et ils ont eu très peur. Voilà, ils ont vraiment cru à un moment donné que ça pouvait avoir des conséquences catastrophiques et pendant 3-4 heures, ils ont réussi à gérer. C'est les anciens qui ont pris des choses en main, m'ont-ils raconté. Et au fur et à mesure, il y a un piqueur qui a réussi à casser la fronte et il fallait vraiment beaucoup de courage pour y aller et faire couler ce métal à nouveau à la main. Mais c'est vrai que quand on est confronté à ça, qu'on ne l'a pas anticipé, c'est compliqué. Et aujourd'hui, Saint-Gobain prend en compte tout ça. C'est-à-dire que les employés sont formés et même les employés eux-mêmes ont eu tellement peur qu'ils forment eux-mêmes les employés à les nouveaux qui arrivent à des tactiques et des techniques manuelles pour pouvoir faire face à ce genre de choses. C'est assez intéressant aussi de le voir.
Cette attaque NotPetya, elle a aussi un impact directement, si on revient à l'Ukraine, une visée en tout cas, on peut la deviner derrière, de déstabilisation pour le coup de la population vis-à-vis du pouvoir politique. Notamment, ça passe par des coupures de courant, ça peut paraître assez anecdotique, mais on est dans une phase où le pays est, on va dire, assez mal politiquement et où justement créer de la défiance entre la population et les dirigeants, ça peut être un levier intéressant quand on est une puissance ennemie quelque part.
En fait, on peut dire que ça, c'est le cadre général des attaques contre l'Ukraine qui sont attribuées à la Russie. Je dis bien attribuées parce que dans l'univers du hacking ou de la cybersécurité, on n'a pas de preuves matérielles techniques. Il y a des indices, il y a des faisceaux, les heures de travail, la présence de caractères cyrilliques.
Qui sont des choses qu'on peut simuler aussi, vous le précisez d'ailleurs dans le livre.
Qui sont des choses qu'on peut parfaitement simuler. Et quand on voit le niveau de ces opérations, on se doute bien que ce genre de détail peut être tout à fait être pris en charge par des services étrangers qui veulent incriminer un tel ou un tel. Ouais. Néanmoins, vu qu'il y a un cadre politique connu, et c'est là où c'est en ça que l'Ukraine est très intéressant, c'est qu'au fond, l'affrontement avec la Russie, même s'il est non officiel, il est existant et reconnu, et c'est donc là qu'on voit cette cyberguerre exister. Et un des enjeux majeurs de toutes les opérations qui ont été menées et qui sont attribuées aux Russes, c'est effectivement de déstabiliser la population pour décrédibiliser le pouvoir en place.
Et ça crée une défiance très forte dans la population, parce que le pouvoir politique, il est totalement discrédité quand on est attaqué comme ça en permanence, parce qu'il y a eu notre Petia, mais il y en a eu beaucoup des attaques. Quand on était en Ukraine, il y avait encore le site du ministère des Mines, il me semble, qui était visé, qui s'est arrêté. Quand vous voyez tous les jours le pouvoir politique se faire attaquer, harceler de cette manière-là, y avoir toutes les peines du monde à répondre, pour la population, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Et voilà, il y a c'est le premier phénomène. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'il y a une sorte, sans qu'on s'en rende compte aussi, tout ça est très souterrain, mais d'isolement économique de l'Ukraine, parce que les entreprises occidentales, et ça on nous l'a raconté ici en France, elles coupent leur réseau avec l'Ukraine pour ne pas être touchées à leur tour. Et ça, c'est hyper marquant. Il y a des entreprises qui arrêtent, il n'y a plus de messagerie vers l'Ukraine, on fait très attention avec les VPN, etc. On limite les investissements dans ce pays-là, et du coup, ce qui devait être normal, une coopération normale entre l'Europe et l'Ukraine, devient quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là aussi, ça finit, sans que personne ne s'en rende compte, à saper le moral de la population. Et c'est incroyable, c'est qu'au final, c'est une arme d'une efficacité redoutable, parce que sentir tirer un seul missile sans avoir déployé un seul soldat sur le territoire ennemi, vous avez réussi à obtenir des objectifs que vous n'auriez jamais obtenus avec un conflit normal, ouvert, comme on peut le connaître ailleurs, ou comme on peut même le connaître dans l'est de l'Ukraine, dans le pays.
Et j'ajouterais que ce qui est important dans ces attaques, c'est effectivement de revenir toujours aux personnes que ça touche. Oui. Et en fait, c'est très bête, mais par exemple, il y a eu une attaque contre le système de réservation des chemins de fer ukrainiens à quelques jours des vacances. Et bien, en fait, c'est très con. Mais quand vous empêchez la population de réserver leur billet de train, ses billets de train pour partir en vacances, ça rend les gens dingues.
Les centrales électriques, c'est juste avant Noël. Et puis d'autres, notre Petia, c'est la veille de la fête nationale. Oui. Donc il y a toujours un petit symbole, un petit côté supplémentaire, quelque chose d'assez subtil, qui montre aussi que le but, c'est pas juste une équipe de hackers qui arrive comme ça pour s'amuser.
Oui, c'est pas juste l'exploit, le but.
Il y a toujours ce petit côté symbolique pour vous faire montrer que, on est quand même là, derrière nous, et vous avez bien compris d'où ça vient. Parce qu'évidemment, on a du mal à croire au grand complot que ça puisse venir de l'Europe, des États-Unis, etc. Voilà, c'est très difficile à croire.
Une des difficultés, vous avez commencé à le dire, Boris, c'est d'arriver à voir cette cyberguerre. Parce que justement, il y a une guerre qui est en cours, mais elle est très très difficile à ne serait-ce que percevoir.
En fait, c'est pour nous, je pense, ça a été une des révélations de cette enquête. C'est qu'au fond, on pensait partir derrière un groupe, un ou plusieurs groupes de hackers russes, et on est arrivé à toute autre chose, qui est un paysage géopolitique mondial où se déroule un conflit souterrain. Un conflit souterrain où ce ne sont plus seulement les grandes puissances, les États-Unis, la Russie, bien que les deux soient très impliqués, qu'on voit à l'œuvre, mais aussi la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la France, évidemment, et l'Europe. Et du coup, c'est ça. Et ce qui est compliqué, c'est de, à la fois, réussir à trouver des lieux, et l'Ukraine en est un, des attaques, notre métier en est une, qui mettent en valeur et qui mettent en exergue ce moment, ce conflit, et qui permettent du coup de comprendre de quoi il s'agit.
Le cyberdomaine, je pense que les armées, les militaires dans le monde entier ont compris qu'il y avait un nouveau terrain de jeu d'une certaine manière. Avant, on se protégeait physiquement dans le monde réel, on protégeait ses frontières avec des armées. Et là, aujourd'hui, tout le monde utilise en permanence les nouvelles technologies. Et là, il y a un domaine d'activité totalement nouveau, un espace virtuel dans lequel les armées sont en train de s'engouffrer. Et donc, tout le monde s'arme, d'une certaine manière. Les Russes, oui, ça on l'a bien compris, parce qu'ils sont à la pointe de ce jeu, notamment en Ukraine, etc. Mais évidemment, les Occidentaux aussi, les Français, les Allemands, les Américains, il y a une sorte d'engrenage. Vous ne pouvez plus faire machine arrière aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un avance, eh bien, derrière, il faut contre-attaquer, il faut se protéger à son tour, et envisager que nous-mêmes, pour se protéger, on va devoir attaquer.
Attaquer aussi.
Bon, et si on admet que un des objectifs de la guerre, c'est de prendre le contrôle, ou de prendre le contrôle des décisions d'un pays avec les outils numérique et avec les attaques qui suivent, qui utilisent des malwares, qui exploitent des failles de systèmes informatiques, eh bien, vous avez un outil formidable pour prendre le contrôle, jouer sur des décisions ou jouer sur le moral de la population et donc obliger les décideurs à répondre aux exigences de la population, à répondre à une inquiétude qui est absolument incroyable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, la guerre a changé. Avant, c'était réservé aux militaires, et avant, c'était beaucoup une histoire d'armes. Maintenant, ça devient une histoire d'influence, de sabotage, de manipulation et d'utilisation d'armes nouvelles.
Il y a une problématique, c'est la prise de conscience, on l'a dit, donc notamment de la population. Nos dirigeants, ils en sont où de leur prise de conscience à eux, justement ?
En Europe, la prise de conscience, je pense que tout le monde a conscience oui. du danger, du fait qu'il faut avancer, et tout le monde se prépare à s'armer d'une manière ou d'une autre. En France, par exemple, le ministère de la Défense a engagé environ 4000 soldats. Il y a des milliards d'argent qui sont dépensés dans ce domaine de la cybersécurité. Et puis, également, au niveau des entreprises, de plus en plus, tout le monde se protège. Et là aussi, il y a notamment avec l'ANSSI qui est là, qui fait un énorme travail autour des entreprises pour trouver des process, essayer de mettre en place des marqueurs dans des endroits pour essayer de retrouver s'il y a des cyberattaques. Tout ce travail-là est en cours. Ceci étant, on peut toujours se protéger, mettre des barbelés partout, comme on est en train de le faire maintenant, changer ses mots de passe, ses capacités même individuellement. Je pense que chacun, aujourd'hui, individuellement, doit prendre en compte le fait qu'on peut se faire attaquer et que ça peut avoir de graves conséquences. Mais les hackers, c'est toujours... pour eux, le but est toujours de trouver la petite faille. Et il y a des gens qui sont extrêmement compétents et qui arriveront toujours, sans doute, à se glisser dans une faille.
Oui, c'est ce qui ressort finalement de la lecture du livre. C'est assez effrayant, si je puis me permettre. C'est la grande fragilité, finalement, de nos sociétés très, très connectées face à ce genre de menaces. Maintenant qu'on confie énormément de choses, qu'on délègue énormément de choses au numérique, finalement, on se rend aussi très, très vulnérable.
Il y a une dimension qui est très liée à la révolution numérique elle-même, c'est-à-dire que se sont développées très rapidement des très grandes entreprises qui ont révolutionné l'économie mondiale, qui sont aujourd'hui les premières capitalisations boursières au monde, et qui étaient porteuses, comme ça, à la fois d'une espérance, d'une utopie, qui aujourd'hui, on en est quand même un peu revenu, mais à qui on a délégué un nombre de données incroyables, sachant qu'elles n'ont évidemment pas du tout les mêmes exigences qu'un État. Que ce soit par rapport à la protection des données personnelles, que ce soit même par rapport à ce que c'est que le bien public, la conception du bien public. Et ce qu'on voit, c'est que ces entreprises, elles sont très vulnérables. Et que aujourd'hui, pour tous, commence à se poser la question de comment on régule et comment on fait rentrer la sécurité comme une priorité. Et comment on régule, ça passe par plusieurs choses. On voit bien que Facebook commence à se dire et a dit « j'ai besoin du régulateur, j'ai besoin des États pour m'aider, parce que tout seul, je n'arrive plus à faire cette mission ». Ça passe par Microsoft qui dit « oh là là, on a besoin d'une convention de Genève, je suis capable de lutter contre des pirates isolés, mais pas contre des pirates soutenus par des États, parce que notamment NotPetya a reposé sur une faille de Microsoft ». Et donc on voit bien qu'il y a un moment comme ça qui est un moment important.
Les Nouvelles Guerres, le livre d'Étienne Huvert et Boris Razon, il est disponible chez Stock en coédition avec Arte, qui diffuse par ailleurs le 7 mai le documentaire qui accompagne ce livre et qui s'appelle Les Nouveaux Mercenaires Russes. Merci à Étienne Huvert et Boris Razon pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.